À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Kapi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Comment réduire les importations des denrées agroalimentaires en RDC, comme je le disais tout à l'heure, la production locale des vivres tels que les céréales, la viande et autres denrées agroalimentaires ne parviennent pas à satisfaire les besoins locaux. Alors pour contourner cette difficulté, les commerçants recourent à l'importation des semoules, poissons, viande et autres produits de première nécessité. Voilà, tout nous vient de l'Asie, soit des autres pays de l'Afrique, alors que la RDC regorge d'une potentialité inestimable dans les secteurs agricoles, les secteurs dans le domaine de l'agriculture, pêche et élevage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'importation des produits des premières nécessités, des produits agroalimentaires en République démocratique du Congo? Professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en sciences et technologies des aliments, et notre invité, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Appelez au 081 890 63 94. Professeur, qu'est-ce qu'on entend par produit agroalimentaire?
Mais le mot, il est clair et il en dit tout. Produit agroalimentaire, c'est tout ce qu'on peut obtenir de l'agriculture et de l'élevage et qui sert à l'alimentation humaine. Voilà, en gros, c'est
en gros, ça. Voilà. Et parmi ces produits, qu'est-ce qu'on... Vous pouvez citer quelques produits.
Ben, vous avez la viande, vous l'avez dit, vous avez des céréales, vous avez des féculents, vous avez du poisson et tout ce qu'on mange, quoi.
Voilà, tout ce qu'on mange. L'huile alimentaire, le riz.
Tout ce qu'on mange et qui provient de l'agriculture et de l'élevage.
Et de l'élevage, ouais. Alors, pourquoi l'importation ici, disons... On a remarqué que dans notre pays, on importe beaucoup plus tous ces produits agroalimentaires. Pourquoi ?
Enfin, le problème, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Je pense que le problème, c'est, ça concerne tous les pays pauvres en général. Monsieur Jody, comme vous le savez, aujourd'hui, la concurrence mondiale, elle est rude. Elle est rude et c'est dans tous les domaines. Et donc, si vous regardez très bien, tous les pays aujourd'hui sont en train de travailler pour minimiser les importations agroalimentaires. Mmh. Ce ne sont pas seulement les importations agroalimentaires, mais dans tous les secteurs de la vie.
Oui.
On minimise les importations et on est à la recherche de nouveaux marchés. Et ce qui fait que la concurrence entre les producteurs locaux et les producteurs des autres pays qui
étrangers,
sont riches,
oui.
Cette concurrence, elle est rude. Elle est rude. Et donc, les États doivent travailler dans la recherche des stratégies pour minimiser les importations agroalimentaires, pour ne les réserver qu'aux produits que je considère nécessaires. Parce que, comme vous le savez, un pays ne peut pas tout produire. Il arrive qu'il y ait dans le pays de potentialités qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas développer. Donc, l'effort à faire maintenant, c'est de faire en sorte que les produits que nous pouvons avoir au niveau local, que nous les ayons. Mais que nous puissions
donc,
importer
si je comprends bien,
le produit
nécessaire. Parmi les causes de cette importation très très accentuée, c'est la faible production.
Il y a deux choses. Il y a deux choses pour faire simple. Mmh. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les considérations du genre et les allègements fiscaux, etc. Mais sur le plan technique, nous avons d'abord la faiblesse de l'agriculture. Et deuxièmement, nous avons ce que nous appelons l'inadéquation techno-fonctionnelle entre les matières premières qui sont produites chez nous et le procédé industriel. Ce jeudi, je vais essayer d'insister là-dessus, sur le deuxième point. Et vous savez que pour qu'une agriculture soit forte, il faut que ces produits rentrent dans les chaînes des valeurs. Alors, les chaînes des valeurs veut dire les industries agroalimentaires. Le deuxième problème que je viens de citer, c'est que les industries qui existent ont des procédés qui n'intègrent pas les matières premières locales, parce que les matières premières locales ne sont pas en quantité et de qualité suffisantes que pour être insérées dans le procédé agroalimentaire, ou que les procédés agroalimentaires qui sont développés chez nous ne sont pas adaptés aux productions de chez nous. J'explique.
Un exemple. Donnez beaucoup plus d'exemples.
Alors, je prends l'exemple de la brasserie. La brasserie utilise l'orge, le malt d'orge. Mmh. Vous le savez très bien, le malt d'orge ne peut pas pousser chez nous.
Pourquoi ?
Parce que le climat n'est pas adapté. Mmh. Donc, ça, c'est une inadéquation techno-fonctionnelle. Autrement dit, le procédé est développé avec une matière première qui ne peut pas être produite chez nous. Donc, si nous devons faire un effort dans le sens d'intégrer nos matières premières, ces efforts peuvent se faire dans deux sens. Soit que nous demandons aux gens de modifier le procédé pour que le procédé s'adapte aux propriétés de nos matières premières,
oui.
Soit que nous travaillons sur les propriétés de nos matières premières pour que nos matières premières s'insèrent dans la chaîne des valeurs. Donc, ça, ce sont les deux volets sur le plan scientifique que l'on peut essayer d'adapter. Bien sûr qu'il faut un investissement en recherche et innovation pour essayer de trouver l'adéquation qu'il faut pour insérer.
Prenons le cas par exemple de l'huile des palmes. Nous avons des palmiers un peu partout à travers le pays. Pourquoi ne pas développer cette industrie pour produire beaucoup plus localement que de continuer à importer.
J'avais dit qu'il y avait deux volets. Il y avait deux volets. Le premier volet, je ne l'ai pas développé parce que je pense qu'avec votre radio, nous avons fait beaucoup d'émissions pour chercher des voies et moyens pour appuyer l'agriculture. Je me rappelle que ici même, nous avons parlé de comment appuyer les petits producteurs. Donc nous avons proposé en son temps des stratégies pour essayer d'accompagner les agriculteurs. Je pense que vous vous rappelez très bien. Alors, ce que moi j'appelle la faiblesse de l'agriculture, c'est quoi la faiblesse de l'agriculture? C'est un peu, pour moi, notre incapacité de déverrouiller le potentiel agricole de notre pays. Nous sommes incapables de déverrouiller le potentiel agricole de notre pays. Et ça, c'est dans tout le domaine, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour l'agriculture.
Par exemple, aujourd'hui, nous continuons à importer les poissons qu'on appelle Saint-Charles, Thompson, ça vient de la Namibie et des autres pays en grande quantité, alors que nos cours d'eau sont remplis de poissons.
Mais ce que je dis...
Et certains vont même jusqu'à dire que les poissons meurent des vieilles.
Mais on l'avait dit l'autre fois, on avait discuté. Enfin, les gens vont vous dire qu'il y a un problème de budget consacré à l'agriculture, à la recherche, etc. Et on a développé toutes ces thématiques ici même. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on va vous dire que le budget de l'agriculture ne répond pas aux exigences de notre agriculture. Et nous avons dit aux émissions antérieures que le budget est faible, certes, mais nous pouvons développer des filières et les amener à maturité. Et comme ça, nous allons petit à petit réduire les importations et les réduire par filière. Aujourd'hui, si nous prenons le budget de l'agriculture et que nous le consacrons à une seule spéculation comme le maïs, et nous l'avons dit ici, M. Jody, nous pouvons travailler de la production de base jusqu'à l'intégration du maïs à l'industrie agroalimentaire. Ceci nous permettra, même si nous ne réussissons pas à réduire les autres importations, mais réduire au moins les importations du maïs. Ça, c'est ce que nous pouvons faire au niveau local. Mais bon, enfin, les solutions, elles sont nombreuses. Je pense que je suis là pas pour donner un cours magistral,
voilà,
mais pour répondre aux questions des auditeurs de la Radio Okapi.
On va accueillir déjà les trois auditeurs qui sont en ligne. Sokoa nous appelle de Kindu, Kasongo, de Bandundouville, et Chris, de Kikwit. Vous voulez participer à cette émission? Appelez-nous au 081-890-6394.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Comment réduire les importations des denrées agroalimentaires en République démocratique du Congo? On en parle avec le professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en sciences et technologies des aliments. Et Sokoa est en ligne depuis Kindu. Bonjour et Sokoa.
Bonjour, j'ai dit, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous les journalistes de la Radio Okapi.
Quelle est votre question, Sokora?
Mais je dis, ok, c'est une faiblesse seulement de la population, ainsi que aussi du gouvernement. Parce que moi, je vais vous donner un témoignage, monsieur Julie. Nous sommes à Kindu. À Kindu, un gobelet de riz coûte aujourd'hui 500 francs. Donc, pour manger du riz à Kindu, il faut une ordonnance. À Kalima, un verre de riz, c'est à 350. À Chabunda, c'est à 600 francs, un verre de riz.
Et que ce riz est produit localement ou bien c'est importé?
En tout cas, c'est localement, ce n'est pas importé.
D'accord.
Parce que les gens ne veulent pas donc cultiver, alors que nous sommes dans la forêt équatoriale, par rapport au continent d'Asie, là où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas quoi. Écoutez, monsieur, j'ai dit, je voulais dire ceci. À l'époque de Mobutu, il y avait un adage qui parlait « Salongo Alingamusala ». Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas donc se donner à l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi. Le gouvernement aussi doit faire aussi l'effort pour éduquer, pour démontrer, sensibiliser les gens pour la culture. Et c'est dommage. Écoutez, je voulais demander
soyez bref,
une question à l'invité.
Oui, allez-y rapidement.
Je vais demander une question.
Oui.
L'invité, est-ce que vous pouvez nous dire exactement pour produire beaucoup des produits agricoles dans notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le gouvernement aussi peut donner aussi l'effort à l'agriculture? Merci beaucoup, bonne journée.
Merci. À Kasongo de Bandunduville, bonjour.
Bonjour, Jody.
Kasongo, veuillez réduire le volume de votre radio. Vous êtes à côté de la radio. Soit vous pouvez vous en éloigner. Quelle est votre préoccupation?
Oui, je dis bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à l'invité. Comment intervenir, comment faire pour réduire l'importation des denrées alimentaires?
Oui.
Ça, c'est un meilleur thème. Mais par rapport à ça, moi, je voudrais commencer d'abord pour dire que comment faire pour parler, avant de parler de ça, il faut d'abord dire comment faire pour connaître d'abord la cause. Soit chercher à connaître la cause. Toutes ces importations. J'ai dit, jusqu'aux années 70, parmi les peu de denrées alimentaires importées par notre pays, nous pouvons citer les poissons secs salés, appelés macayabo, et aussi quelques bois de conserve. Tout n'a pas été importé, on n'en avait pas besoin. Mais parce qu'il y a trop de naissances, et voilà, les gens deviennent aussi trop paresseux, peut-être que nous avons commencé à importer. Mais quelle est la politique de notre République? Nous avons, au niveau des provinces, les assemblées provinciales, nous avons au niveau national...
Kasongo, passez directement à la question, parce que les autres attendent. On est en train de courir derrière les temps.
Ah, j'ai dit merci beaucoup.
Allez-y rapidement la question.
On va parler de bonnes choses. Bon, dites-moi, quelle est d'abord la politique au niveau, quel lobby a été déjà pris, quelle loi a été prise pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, notre pays ne va plus importer que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits agro, les pastoraux. Et donc, il faut maintenant, parce que tout, nous vivons de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Mais il faut passer de l'agriculture de subsistance pour l'agriculture industrielle. Alors nous aurons eu trop de produits sur le terrain et là on n'aura pas besoin d'importer.
D'accord. Merci Kasongo de Bandunduville. Comment réduire, que faut-il faire pour réduire les importations des denrées agroalimentaires en RDC? Chris, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, bonjour à M. Joly.
On vous écoute, Chris, rapidement.
Oui, le sujet est tellement intéressant. Moi, je voulais juste dire que le pouvoir de production des denrées alimentaires dans notre pays est moindre. Parce que si vous parcourez en moins dans nos villages, vous ne trouverez aucun endroit où on utilise encore du tracteur pour la production. Et il faut que les gens travaillent avec la houe, tout ça, et ça prend du temps et on a vraiment une moindre capacité de production. Moi, j'avais voulu juste demander à notre invité, quels sont, d'après lui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour augmenter notre capacité, notre pouvoir de production, parce que nous remarquons que notre gouvernement a juste abandonné juste le point de production, juste l'économie est partie publiciste des ressources minières et il a juste abandonné l'agriculture.
Merci Chris de Kikwit. Comment réduire les importations des denrées alimentaires? Hippolyte, vous êtes à Kalemi, Malonga, à Bandundouville. Bonjour Hippolyte. Il n'est plus là. Malonga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour aujourd'hui et bonjour à l'invité et à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question, Malonga?
Bon, ce n'est pas une question aujourd'hui puisque nous répondons à une question. C'est comment...
réduire les importations. Oui.
Oui, ça va. Moi, je vois ceci. Je dis, ma fille vient d'obtenir le diplôme là, cette année. Je l'ai fait inscrire dans l'agronomie. Il y a beaucoup qui me disent que pourquoi vous faites inscrire une fille dans l'agronomie? Or, moi, j'ai une vision. Que ma fille fait l'agronomie, qu'elle-même saura comment elle va se garantir du taux de vie alimentaire. Pour lutter contre l'importation, mon ami de Kindu, il a très bien intervenu. C'est à Kalima, à Chabunda, tout ça là-bas, on exploite les lignes. Mais à une petite quantité, puisque tout le monde ne cultive pas. Si tout le monde s'adapte aux cultures, vous verrez que automatiquement, cette importation va se réduire et il y aura des grands marchés, des agglomérations pour la production. Pour lutter contre l'importation, le professeur est là, il donne le cours et il donne le souhait de chaque étudiant d'avoir même un jardin. Bien, de savoir comment il peut se garantir qu'il n'achète plus encore des matendonnées, des ndunda, des moussa, de celui. Si la population s'adapte à s'autonomiser elle-même,
oui.
Vous verrez aujourd'hui, nous serons vraiment à mesure de diminuer l'importation. Malgré que nous vivons dans un monde de transactions, nous pouvons dépendre aussi d'autres, mais nous serons dans un point d'équilibre pour satisfaire de notre production. C'est ce que je dis ici. Il faut d'abord initier la population, la vie culturelle. Nous tous, nous avons besoin seulement d'être dans les bureaux. Et comme la majorité de la population ne s'intéresse pas de la production locale, nous serons toujours à la demande de l'extérieur.
D'accord, merci Malonga de Bandundouville. Professeur, vous avez subi votre réaction par rapport à tout ce que les auditeurs ont dit.
Et notre ami Esoko Adekindu a dit que la population, à peu près, hein, pour paraphraser, que la population devrait travailler plus, etc.
Les gens font plus de l'agriculture de subsistance.
Voilà, et je pense que c'est aussi un peu ce que partage notre ami Malonga de Bandundu. Et moi, je pense que c'est une réponse facile que de dire que les gens sont paresseux. Les agriculteurs ne sont pas des paresseux. Le problème des agriculteurs, c'est la richesse. Ils travaillent dur et ils n'ont pas assez de moyens. Mmh. C'est pour ça que dans l'émission antérieure, nous avons dit que tout doit être fait pour que la production agricole soit valorisée dans l'industrie. Comme ça, ces gains, ce surplus de valeur rentrera au niveau des producteurs. Vous savez, monsieur...
Mais ça, ce n'est pas une initiative des privés, c'est l'État qui doit organiser.
Mais c'est ça, justement...
C'est agriculture.
Oui, mais nous n'allons pas revenir en arrière, parce qu'avec vous, nous avons discuté de comment encourager les petits producteurs. Mmh. Et nous avons donné toute la recette, je pense que vous vous rappelez très bien. Moi, ce que je dis, c'est que le découragement des agriculteurs vient du fait que ces agriculteurs ne captent pas suffisamment de valeur dans la chaîne internationale. Parce que, réfléchissez bien, les petits agriculteurs de Kindu est en compétition, en concurrence avec le gros producteur de riz de Chine. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Il y a un milliardaire qui produit du riz en Chine et qui est à la recherche des marchés extérieurs
et qui doit venir trouver un marché en RDC.
En RDC et qui est donc en compétition avec un petit producteur qui travaille là-haut. Ces pauvres petits producteurs, quand il va faire ses 50 kilos de riz et qu'il doit vendre, je ne sais pas moi, à 10 francs pour ne rien gagner, rassurez-vous.
Mais il y a quand même des producteurs qui se battent, qui essayent d'émerger, mais ils ne sont pas suffisamment protégés face à la concurrence.
Exactement. C'est pour ça que j'avais dit que nous devons pousser le gouvernement à mettre en place un plan de réduction des importations. Et ce plan doit se faire au niveau du gouvernement. Ce n'est pas un petit agriculteur qui va le faire. Et monsieur Jody, tenez-vous bien, je vous ai parlé de la faiblesse de l'agriculture. Et même nous, scientifiques, nous n'aidons pas le gouvernement. Et je pense que vous avez suivi avec moi, il y a plusieurs moments ici, qu'il y a eu beaucoup de projets dans le reboisement. Et ça continue encore. Nous faisons beaucoup de reboisement, nous mettons des acacias, etc. Mais nous ne pensons pas à mettre des arbres fruitiers. Si vous voyez les étendues d'acacias que nous avons en République démocratique du Congo, si ça avait été des arbres fruitiers, je pense que déjà, on aurait eu des fruits. Donc, le gouvernement est responsable, certes, mais est-ce que nous, scientifiques, nous aidons suffisamment le gouvernement à prendre les mesures qu'il faut? Bon, après, il y a des gens qui vont me dire que parfois le gouvernement ne nous écoute pas. Mmh. Notre ami Kasongo, il dit... quelle est la politique de la République en matière de réduction des importations?
Oui, mais ça, il a bien dit, à l'époque, il y a seulement les poissons secs qu'on appelle les macaïbes ou qui venaient d'ailleurs, et les boîtes de sardines, disons les boîtes de conserve, mais aujourd'hui c'est tout. Allez dans les supermarchés, vous verrez que même les tomates, même les légumes, ça provient de l'étranger.
Mais je vous ai dit au début de l'émission que tous les pays du monde sont à la recherche de nouveaux marchés. Lorsque vous découvrez un nouveau marché qui est caractérisé par une agriculture faible comme la nôtre, ben vous l'envahissez. Ah, mais ne vous inquiétez pas, parce que si ça continue comme ça, même le manioc, vous allez l'acheter de la Chine demain. Parce que si ces pays-là mettent de moyens pour développer une agriculture plus rentable, leur permettant de vendre le manioc de meilleure qualité, moins cher que le manioc de non-producteurs, je vous jure que nous allons acheter le manioc venant de la Chine. Et ça, Il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous avons dit à l'émission passée. Le gouvernement doit cartographier les zones culturales, choisir des spéculations prioritaires, investir dans la recherche et développement pour développer ces spéculations, insérer les valeurs pour que les retombées puisse arriver au niveau des producteurs.
Il y a eu un projet au niveau de l'Ancelé qui peut produire un projet de production des produits agroalimentaires.
Ben oui, mais je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est bien.
Pourquoi ça n'a pas aidé à...
Des projets comme ça, il faut en avoir beaucoup. Nous devons avoir beaucoup de projets de ce genre-là. Mmh. Ce n'est pas un seul projet qui va relancer tout un pays comme la RDC. Moi, j'ai dit toujours, tout est lié. Regardez, monsieur Jody, aujourd'hui vous allez me dire qu'il n'y a pas d'emploi des jeunes. Et vous reconnaissez que c'est l'agriculture qui va créer de l'emploi. Vous reconnaissez que c'est l'agriculture qui va réduire les importations, etc. Mais l'agriculture ne peut rien faire parce que notre agriculture ne produit pas de la valeur. L'emploi, c'est une répartition de la valeur, hein? Et l'augmentation de la production, c'est un réinvestissement de la valeur dans l'agriculture. Alors, tant que l'agriculture est faible, nous n'aurons pas de sous pour investir dedans, avoir une agriculture compétitive, nous ne pourrons pas créer des emplois durables, parce que l'emploi, c'est un partage de valeurs qu'on a ajouté entre ceux qui
investissent. Mais à un certain moment, il y a eu même distribution des tracteurs pour aider les agriculteurs à augmenter leur production, mais ça n'a pas donné.
Mais je dis, je ne suis pas venu parler de l'agriculture, on en a parlé. Je vous expliquais l'autre fois que lorsque vous avez... par exemple, moi j'ai vu ça dans le Bandundu, les gens qui donnent de nouvelles semences. C'est très bien. J'ai discuté avec un expert, je ne sais pas moi, international, comme il s'était appelé. Je lui ai dit, monsieur, c'est très bien. Aujourd'hui, je travaille dans le monde rural. Moi, que vous voyez en face de vous, je travaille dans le monde rural. Et moi, j'ai vu des agriculteurs qui ont changé des semences. Mais les gens qui ont changé des semences ont oublié que la semence qu'ils ont remplacée, c'était une semence qui ne donnait pas des meilleurs rendements, mais qui ne s'est dégénérée pas non plus. Et donc, du coup, les gens pouvaient se contenter de cette production faible, mais qui reste dans le temps. vous venez avec des semences de meilleure qualité. La première année, vous avez un meilleur rendement. Mais après, ces gens-là ne sont pas accompagnés. Vous n'êtes pas là pour leur donner encore de semences, avec la dégénérescence des semences. Leur rendement ne fait que baisser. À un moment donné, ils n'ont même plus de rendement du tout. Et ça, c'est un problème d'accompagnement que nous avons épinglé ici même. Nous avons dit que le gouvernement ne devrait pas seulement financer l'agriculture. Le gouvernement devrait accompagner les agriculteurs en permanence, parce que, tenez-vous bien, ce que nous dépensons en importation agricole, c'est un peu plus du tiers, du quart de notre budget national. Mmh. C'est quand même énorme.
Et si on a eu des projets comme Bukangalonzo, mais ça n'a pas.
C'est un projet qui n'a pas, excusez-moi, c'est un projet qui n'a pas été bien étudié. Ce projet, on pouvait le réussir sur un sol qui s'adapterait à ces types de spéculation. Nous l'avons dit encore une fois, M. Jody, cartographie des sols.
Un instant. On va accueillir Félicien de Kinshasa et Clément Daï de Kananga. Félicien, bonjour.
Ah, bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute, Félicien.
Oui, mais moi j'ai entendu l'invité parler d'amener les dirigeants à réduire les importations des denrées alimentaires ou agroalimentaires, mais je ne sais pas si cela est possible avec les dirigeants que nous avons ces derniers temps. Parce que ça dépend de la volonté politique. Et les dirigeants d'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir de l'argent rapidement pour leur intérêt personnel. Mais ils n'ont pas le temps à perdre avec l'agriculture qui prend du temps pour donner des fruits. Et prenez l'exemple. Nous avons mené une étude dans le cadre de nos services pour voir qu'est-ce qui faisait que les chinchards coûtait un peu trop cher ici par rapport à d'autres pays. On a trouvé que pour tout taxe, les chinchards, les cartons de chinchards qui arrivaient à Matadi coûtaient $20. Mais quand il arrivait à Kinshasa à ce moment-là, c'était $80. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien ça coûte. Mais les $60, c'est tout ce qui entrait en compte qui servait aux dirigeants de ces pays. Et ces gens-là qui trouvent leur compte dans la corruption, dans ces antivaleurs, comment vont-ils vouloir qu'ils puissent organiser la pêche quand ils gagnent déjà beaucoup d'argent dans ce genre de choses? C'est pourquoi donc il est difficile que la classe politique que nous avons aujourd'hui, qui veut vraiment exploiter rapidement tous les minerais et les brader même pourvu qu'ils aient l'argent, parce que pour leur poche, leur ventre, c'est pas pour servir la nation, et ils font tout pour s'enrichir. Donc, avec cette classe politique, nous ne pouvons même pas espérer. Ceux qui étaient avant eux, à l'époque des pères de l'indépendance, et ils travaillaient avec, d'autres convictions, mais ils n'ont pas les mêmes convictions aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est le problème de s'enrichir un point très, et jamais, tant qu'on ne changera pas l'homme, tant qu'il y aura encore de la médiocrité, des antivaleurs, que nous pouvons parler de tous ces programmes, de tous ces plans, tout ça, ça ne réussira pas maintenant. Il faut encore attendre, il y a du travail à faire, l'éveil patriotique, il y a du travail à faire, et la conscientisation, jusqu'à ce que l'homme qui viendra de nous comprendre que c'est son pays et il doit le bâtir et il ne doit pas se sentir à l'aise à l'étranger.
Merci Félicien de Kinshasa. Clément Daï, vous êtes à Kananga. Comment réduire les importations des denrées agroalimentaires en RDC? Clément, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité. Je remercie sincèrement l'invité pour son courage. Mais j'aimerais vraiment lui faire voir que c'est vrai que le gouvernement peut avoir certaines règles qui s'imposent dans l'importation des denrées alimentaires. Mais à un moment, j'ai vécu un cas ici à Kananga. Vous voyez que ici nous sommes en train de vivre vraiment une crise dont le maïs, le prix a exagéré. Mais le gouvernement fait de son mieux, provincial, oui, de son mieux, à ce que nous puissions avoir vraiment le maïs et qu'on puisse vraiment réduire les prix.
Mais un moment, et le maïs à Kananga est produit localement ou ça provient d'ailleurs?
Non, c'est localement, sauf que c'est le territoire de Moïta qui nous fournit. Et vraiment, c'est très compliqué, car à l'usage, ils pouvaient y avoir, mais pour ce moment, c'est devenu très compliqué. Il n'y a que Mouéka qui nous aide à avoir le maïs ici. Mais à un moment, on a dit que le maïs pouvait être dans les dépôts, qu'il n'y ait pas vraiment les qu'on ne puisse pas les ramener ailleurs. Mais un moment, c'est la nuit, on ramène les maïs la nuit, et des mouvements de la nuit. Alors, dans ce cas, j'aimerais demander à notre invité, dans ce cas, qui peut de l'autre, c'est le gouvernement ou bien c'est la population, puisque le gouvernement s'est opposé, mais la nuit, c'est la même population là qui dégage. Et dans la nuit, il y a le mouvement de vent, on dégage presque tout le maïs, alors dans les dépôts, il n'y a rien. C'est pourquoi j'aimerais demander, dans ce cas, c'est le gouvernement qui peut aider la population, ou bien c'est la population qui peut aider le gouvernement, puisque le gouvernement s'est opposé, mais la population a fait que le maïs vraiment qui serait ici, que la population elle-même la reste en crise. Vous voyez vraiment ce qui se passe.
D'accord, merci. Merci Clément Daye, Jurès et Maka de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, jeudi.
On vous écoute, Jurès.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Bon, la réalisation n'a pas eu tout le temps pour m'écouter, mais sinon j'appelais pour la rubrique et ça se passe près de chez nous. Mais je glisse quand même un mot par rapport au sujet du jour. Alors, moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir réduire l'importation des denrées alimentaires consiste oui. Et à pouvoir investir considérablement dans l'agriculture. Mais l'investissement dans le secteur agricole est une question transversale qui nécessite l'implication de l'État qui a non seulement le devoir de pouvoir encadrer et sécuriser les agriculteurs, mais aussi et surtout de pouvoir disposer aux agriculteurs les infrastructures et matériels et appropriés. Bon, et nous ne voulons pas faire un long débat là-dessus, mais il est parfois regrettable de constater que parfois les gens qui ont des lopins de terre, des gens qui ont l'accès facile à l'eau, ne peuvent même pas faire un petit jardin pour trouver les légumes. C'est ce que nous regrettons et parfois nous sommes trop paresseux de telle enseigne que nous voulons attendre le coup de l'État. Donc si d'un côté l'État doit faire quelque chose pour l'ensemble du pays, mais au moins chacun individuellement à son niveau peut pouvoir produire soi-même ses propres légumes. Alors, mais quand même, j'ai une question à poser à l'invité. Je ne sais pas si l'invité peut déjà avoir une idée sur la place qu'occupe le secteur agricole, donc autrement dit, ça occupe quel volume. Donc, ça a occupé quel volume dans les budgets de l'année passée et pour l'année qui vient là, donc, quel pourcentage a-t-on accordé au budget pour ce qui est de l'agriculture? Je vous remercie.
Merci, Jurès et Maka. Omer, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité.
Alors, vous sortez en très coupé. Je vais vous demander de vous déplacer. Ah. Peut-être que ça peut s'améliorer parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Bon.
Désolé, Omer, je vais peut-être essayer de nous rappeler plus tard. Professeur Jean-Claude Bouanganga, vous avez suivi les différentes préoccupations. Monsieur Félicien de Kinshasa dit que c'est donc il n'y a rien à faire. La corruption a tellement gangréné le système, donc on ne peut rien espérer.
Moi, je ne dirais pas ça parce que je ne suis pas politicien. Ça, ce sont des facilités que l'on utilise pour justifier son incompétence. Mais enfin, si ce sont les politiciens, la population va sanctionner les politiciens. Moi, je réponds à un scientifique et je pense que vous avez vu que j'ai circonscrit mon intervention. J'ai enlevé les allègements douaniers parce que c'est pas
vous
bon.
Vous avez dit qu'il faut un plan de réduction des importations.
Oui, exactement. C'est-à-dire
et dans ces plans, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mon intervention se fait à deux niveaux. J'ai dit le premier niveau, c'est le verrou qu'il y a sur notre agriculture. Notre agriculture est verrouillée. Il faut déverrouiller l'agriculture, c'est-à-dire déverrouiller son potentiel. Déverrouiller son potentiel signifie investir de manière intelligente dans l'agriculture. Et investir de manière intelligente, monsieur Jeudi, ça ne veut pas dire que maintenant, si nous commençons à augmenter notre production agricole, tout sera correct. Non, ça ne suffira pas. Augmenter notre production agricole, c'est bien, mais nous, intellectuels et les députés qui sont au niveau de l'Assemblée, nous devons travailler sur l'intégration de nos produits agricoles dans l'industrie agroalimentaire. Tant que cela ne sera pas fait, nous aurons toujours une agriculture qui sera faible. Alors, la façon de faire cela, j'ai dit, c'était deux façons. La première façon, c'est que nous, au niveau de la recherche et innovation, nous devons réfléchir sur les adaptations que nous devons apporter à nos matières premières pour qu'elles s'insèrent dans l'industrie. Et de l'autre côté, faire en sorte que nous ayons des machines qui nous permettent,
par exemple,
un peu ce qu'on appelle la migration de biotechnologie.
Aujourd'hui, par exemple, avec le maïs, on peut avoir plusieurs dérivés. On peut transformer le manioc et avoir plusieurs autres produits.
Mais on peut avoir des produits si le manioc que l'on produit peut être processable. voilà, excuse-moi le terme. La processabilité sur le plan technique, c'est l'aptitude à une matière première d'être processabilisé. C'est un mot.
Un exemple pour nous permettre de mieux comprendre.
Et c'est comme pour vous dire, est-ce que je peux faire du pain aujourd'hui avec le manioc? Ah, vous faites du pain avec de la farine de blé, mais nous avons ici de la farine de manioc que nous pouvons produire. La question sur le plan scientifique serait, quel type de réflexion nous, chercheurs, devons avoir pour que notre manioc ait les propriétés fonctionnelles lui permettant de rentrer dans la chaîne des valeurs? Vous vous imaginez si tout le manioc produit en RDC servait à vendre du pain, il y aurait des retombées financières au niveau des agriculteurs. Ça, ce sont des choses que l'on peut faire et pour le long terme. Si vous ne voulez pas rester à une agriculture qui vous suffit pour manger des chikwangs et terminer, c'est ça le modèle qu'il faut utiliser si vous voulez que la République démocratique du Congo aille loin. Et ça, c'est notre devoir. Ce n'est pas le devoir du gouvernement. Certes, le gouvernement doit donner des moyens. Mais
nous, un budget. D'ailleurs, quelqu'un a posé la question de savoir quel est le budget consacré à l'agriculture
ou au secteur agricole. Parfois, M. Jody, est-ce que nous faisons des meilleures propositions au gouvernement? Je ne suis pas du gouvernement, parce que les gens vont croire que je fais des propositions. Est-ce que les gens ont été suffisamment sages pour dire au gouvernement congolais, n'acceptez pas tous ces investissements en termes d'acacia, acceptez-les en termes d'arbres fruitiers? Quel est ces scientifiques congolais qui avaient été suffisamment courageux pour dire, oui, les acacias, acidifier nos sols, qu'autour des acacias, rien ne pousse, et qu'à part le bois, nous, on mange pas de la braise, nous. Nous, on mange le fruit. Si l'investissement qu'on a fait pour les acacias, on l'avait fait pour les mangues, je pense qu'on mangerait les mangues.
On peut transformer les mangues, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec
On peut avoir tout ce qu'on veut, on peut avoir du jus, on peut avoir du vin, on peut avoir tout ce qu'on veut.
Mais encore certains disent qu'il y a des mangues qui pourrissent, si vous allez dans le Congo central, vous allez dans le Bandundu, il y a des bananes, il y a des fruits qui pourrissent.
Mais
on n'arrive pas à mettre en place des structures, des transformations.
Mais c'est là où je parlais de l'adéquation techno-fonctionnelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un atelier conçu spécialement pour les mangues. Monsieur Jody, quand on fait de la bière, on utilise quelle matière première? C'est le malt, c'est le malt d'orge. Mm-hmm. Et les Blancs ont travaillé dessus. Ils ont travaillé leur malt pour qu'il s'adapte à l'industrie brassicole. Ils ont travaillé leur lait, leur vache, pour produire suffisamment du lait qui soit intégré dans l'industrie laitière. Vous prenez une autre industrie, la vinification. Les gens ont travaillé leurs raisins. Vous ne pouvez pas aujourd'hui acheter une installation vinicole qui puisse accepter les mangues. Non, ce sont les raisins que vous allez utiliser pour produire du bon vin. Mais est-ce qu'on ne peut pas produire du bon vin avec des mangues? Bien sûr que oui. Mais il faut des machines appropriées. Il faut que les mangues que nous avons soient des mangues de qualité permettant de s'insérer dans l'industrie agroalimentaire. L'excuse n'est pas politique.
Mais vous pensez que les mangues que nous avons ici ne sont pas de bonne qualité?
Si, pas toujours. Nous n'avons pas toujours des mangues de bonne qualité. Nous n'avons pas toujours des mangues de bonne qualité parce que nos agriculteurs ne sont pas formés pour avoir une qualité continue. Vous savez, l'industriel, c'est pas quelqu'un qui se réveille et qui doit changer ses réglages. Monsieur Jody, nous n'avons pas la culture de la stabilité dans notre production. Vous mangez le pondou de votre belle-mère, vous pensez que votre femme va vous faire pareil, détrompez-vous. Elle vous fera un pondou qui sera très différent du pondou de sa mère. Parce que, nous n'écrivons pas nos recettes, nous n'écrivons pas nos techniques, nous ne faisons rien pour avoir des qualités stables dans le temps. Aujourd'hui, je mange une mangue dans le Bas-Congo, elle est bonne. Je repasse l'année prochaine et je mange une mangue dans la même ferme, elle n'a pas la même qualité. Mais en Europe, c'est pas ça. Tu achètes le malt chez un fournisseur, tu fais 10 ans, tu passes les mêmes commandes et tu as les malts de la même qualité. C'est ça le travail que nous devons faire. Ne nous cachons pas.
Nous avons des ananas, vous allez vers Kikwit, tout ça, dans le Bandundu, il y a des ananas.
Mais ce que je dis, c'est toujours la même chose.
C'est toujours la
même chose. Si on n'y travaille pas, on n'aura rien, on ne saura. Ce que je dis ici, ce n'est pas le court terme, ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est pour l'Afrique en général.
Mais ce que je dis, tenez-vous bien. Les agriculteurs peuvent produire bien les ananas et autres éléments, mais ils n'ont pas assez de moyens pour acheter. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent investir, par exemple, dans des structures de transformation de ces ananas pour produire les jus et autres.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit que la responsabilité de l'État, c'est dans la recherche et l'innovation. Bon, enfin, il faut que l'État alloue énormément d'argent pour des chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. C'est un domaine qui crée des valeurs et des emplois durables.
C'est même les privés peuvent également investir dans ce domaine.
Exactement. Mais nous, on est tellement aveuglés qu'on passe à côté de la chose. Et on est là à critiquer...
Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas un plan, il n'y a pas une politique pour encourager les privés à investir dans le secteur agroalimentaire.
Mais oui, mais justement. Et la politique, c'est au niveau national. Ça, je suis d'accord avec les amis qui ont dit que le gouvernement doit faire des efforts. Mais le gouvernement...
Mais pourtant, depuis un moment, le gouvernement encourage les PME.
Oui, mais le gouvernement encourage les PME, mais il faut un travail derrière. Il faut un travail de recherche et innovation. Je pense que le financement qu'on doit faire au niveau de la recherche, c'est la recherche-action. On ne peut pas faire la recherche en RDC pour la recherche. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la recherche pour stabiliser la production au niveau de nos agriculteurs.
Un instant, professeur, on va accueillir deux auditeurs, Yannick de Manono, Émile de Kindou. Nous parlons de comment réduire les importations des denrées agroalimentaires en RDC. Yannick, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. J'aimerais passer par une brève contribution avant de passer par une question. Je disais que je prends notre pays, la RDC, comme un fleuve nourri par les affluents. Parce que plus particulièrement, je prends le Grand Katanga. C'est une ancienne province qui était nourrie plus particulièrement par la petite Zambie, un petit pays qui nourrit notre
province. Par la Zambie.
Mais pour passer plus rapidement, j'aimerais dire qu'au Congo, nous avons tant de richesses. Mais la population considère plus les matières premières comme si c'était de la nourriture. Et il nous faut plus travailler durement et cultiver pour rendre moins le taux ou le pourcentage de l'importation de produits ouvriers. Premièrement, je disais que c'est une malédiction pour nous, la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous voyons la technologie plus accélère, puisque cela donne la faiblesse de la force physique. Vous verrez, je prends l'exemple d'un téléphone et une ou. La machine ou l'usine nous produit plus le téléphone qu'une ou. Vous verrez, un jeune a un téléphone Android, mais il n'a même pas une ou. Il ne sait même pas comment on tient une ou pour qu'il vive. Mais tout cela donne une malédiction à venir à la jeunesse. Mais je voulais poser juste une petite question. J'ai entendu l'invité dire qu'il a un plan pour réduire le taux de pourcentage de l'importation. Oui. Mais je voulais lui demander, est-ce qu'il a aussi un plan? Donc le plan
non, B, l'invité n'a pas un plan.
Plan, hein, et le plan B pour élever le taux ou le pourcentage de la production.
Local.
Pour pousser la population congolaise à s'influencer dans les problèmes de l'agriculture plus que les autres les affaires. Voilà les trucs que j'avais.
Merci.
Pour aujourd'hui, monsieur Jody.
Merci Yannick de Manono. Émile de Kindou, rapidement, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Émile,
merci de nous avoir reçu.
On n'a plus beaucoup de temps.
Nous vous remercions pour nous avoir reçu aujourd'hui. Sauf que nous avions essayé de vous appeler plusieurs fois. La réalisation ne sachait pas nous recevoir.
Désolé pour cela, mais au moins vous êtes en ligne. Alors, quelle est la question, Émile?
Bon, c'est par rapport au sujet du jour. À qui nous, ici, chez nous, nous avons tellement un grand problème. Parce que nous avons vu le gouvernement national en train de distribuer les tracteurs pour l'agriculture partout ailleurs à travers le pays. Et ici, chez nous, nous avons eu au moins la chance de recevoir ces tracteurs-là. Mais ce qui est déplorable, ces tracteurs, au lieu de servir à l'agriculture, commencent à traîner dans des clôtures, des maisons, des autorités administratives ici chez nous. Ce qui est bizarre.
D'accord.
On ne sait pas. Par rapport à ça, nous posons la question à notre invité. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir un impact sur la nutrition de la population ici chez nous?
Merci Émile. Merci Émile de Kindou. On n'a plus beaucoup de temps. Professeur Jean-Claude Bananga. Après avoir écouté tout ce que les auditeurs ont dit, qu'est-ce qu'on peut retenir pour réduire l'importation des produits agroalimentaires à RDC?
Je vais faire un peu simple, mais je sais que la question n'est pas aussi simple que ça. Moi, je pense que pour la situation de notre pays, si nous voulons réduire les importations agroalimentaires et même augmenter les exportations agroalimentaires, nous devons commencer par spécialiser les provinces. Spécialiser les provinces, Monsieur Jody, je pense que vous savez que toutes nos provinces n'ont pas toutes le même potentialité. Et donc, nous devons orienter les investissements par province, faire des investissements privés, et plutôt, excusez-moi, ciblés en agriculture. Je prends un exemple. Je sais, par exemple, que je peux bien faire le maïs dans le Kasaï. Donc, je dirais au niveau du gouvernement, si nous avons des investissements à faire dans le Kasaï en matière d'agriculture, je vais travailler sur le maïs. Et puis, nous devons investir dans la recherche et innovation. Investir dans la recherche et innovation, c'est ouvrir des possibilités de création de valeur. Lorsque vous avez des matières premières, comme j'ai dit, qui peuvent s'insérer dans l'industrie agroalimentaire, vous avez des valeurs sûres. Vous avez des valeurs sûres, vous avez de l'argent sûr, vous avez de l'emploi sûr.
Et voilà, et vous avez dit qu'il faut un plan de réduction des importations, il faut encourager la population, les gens à faire de l'agriculture.
Ouais, il faut légiférer aussi, il faut légiférer. Il faut que les députés puissent voter de lois, par exemple, qui obligeraient, nous avons dit ça une fois, qui obligeraient les industriels à intégrer des matières premières locales dans leurs procédés.
Si nous avons, de continuer à les importer.
On peut dire 40% de manioc pour faire du pain au Congo ou tu fermes ton usine. Je vous jure que ces gens-là, ils vont nous faire du pain avec le manioc et l'argent rentrera au niveau des producteurs locaux.
Professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en sciences et technologies des aliments, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à tous ceux qui nous ont suivis.